Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Apparemment, quelle que soit l'époque, quand il arrive un grand malheur, une surprise, un événement malheureux, l'homme de tout temps cherche à trouver la cause de ce malheur. Aujourd'hui, on dirait, qui est responsable ? Trouvons-nous des responsables ? Une fois qu'on aura trouvé le responsable, il n'y aura plus de problème. Donc, de tout temps, on cherche une cause. Il faut trouver une cause au malheur. Cela a été compris aussi. Donc, soit on va mettre un animal pour cause, enfin, on va concentrer sur lui, externaliser sur lui finalement tout notre malheur, soit un homme. On appelle ça le principe du bouc émissaire. Si vous voulez aller plus loin, vous irez voir le livre, un excellent livre de René Girard, tout le temps peut-être, un livre de pendant les vacances de Pâques qui arrive. Donc on va prendre un bouc émissaire pour cause finalement de tous nos malheurs, et après bien sûr, nous n'aurons plus de malheur, on pourra tourner la page définitivement. On voit bien, il y a 2 écueils à ce bouc émissaire, à trouver une cause à la mort de tous ces Galiléens ou à ceux qui sont tombés de la chute, enfin la tour de tour de Siloé, pardon. Les 2 écueils principaux. Le premier, c'est que finalement on oublie que le fait d'avoir un bouc émissaire, de trouver un bouc émissaire à tous les malheurs, ne doit pas nous exonérer de voir nos propres perversités. C'est un peu rapide finalement. Comme si finalement ça nous exonérait rapidement. Et puis bon, une fois qu'on tourne la page ou que le bouc émissaire vient à mourir, eh bien on serait plus pervers, on serait à nouveau saint. Mais surtout, à travers ce bouc émissaire, c'est oublier finalement, fondamentalement, notre nature. Notre nature d'être fini, d'être mortel, d'être limité. De croire finalement que nous sommes, que nous redevenons purs d'un coup, voire même parfait. C'est oublier notre propre nature. Et à travers ça, j'aimerais revenir, si vous voulez, avec vous, sur ce malheur dont nous entendons, et sur une définition du mal dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais peut-être essayer de revoir différemment, pour comprendre les choses. Quand nous essayons de chercher une cause au malheur qui nous arrive, et nous sommes dans l'épreuve, soit personnelle, soit en église, essayons de voir, essayons de discerner les choses. Parce que parfois nous sommes tellement dans la sidération que nous sommes paralysés, incapables de réagir, tellement il y a des événements qui arrivent. Alors essayons de discerner ensemble. Donc quelles sont les causes? Les causes supposées. Parce qu'on voit bien que Jésus, dans sa façon de parler, ne cherche pas à donner de cause au mal. Il va dire autre chose, justement. Bon, La première, enfin, quand on parle du mal, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, il faut essayer de distinguer ce qui est du malheur, du mal et du malin. Reprendre ces trois choses toutes simples. Malheur, mal, malin. Quand je dis malheur, hein, le malheur, c'est un événement d'une catastrophe climatique, ou c'est un événement qui arrive, qui était imprévu, qui va venir apporter vraiment une souffrance que l'on n'attendait pas. Et on cherche toujours une cause à ce malheur, mais qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de cause. Nous sommes créés, limités, mortels, finis. Nous devons consentir à notre condition mortelle et consentir au fait que Dieu n'a pas créé le monde parfait. Même, il n'est même pas achevé. Quand on écoute la doctrine sociale de l'Église, on se rend compte que la mission première de l'homme, de l'humanité et des chrétiens, en tout premier lieu, est d'aider Dieu à achever ce monde pour le conduire vers le royaume. Notre mission, c'est donc d'aider à achever ce monde. Le monde n'est pas achevé, il gémit encore dans les douleurs de l'enfantement. Nous devons comprendre ça. Donc ce n'est pas comme si Dieu nous avait privés de quelque chose, d'un bonheur dont on devrait jouir en quelque sorte. Nous devons consentir à notre condition mortelle. Consentir au fait aussi que la nature par elle-même aussi ait des soubresauts, ait des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Il y a des choses, c'est normal. C'est dans la nature de la création d'être fini, d'être mortel. C'est aussi, malheureusement, dans notre nature aussi, que notre corps engendre aussi, d'une certaine façon, des maladies propres à nos gènes aussi. Ça fait partie aussi d'un consentement à avoir. Donc il n'y a pas une cause à rechercher, comme si tout d'un coup la maladie allait partir. Il faut d'abord consentir à cela. Et essayer, bien sûr, d'y remédier le maximum, bien sûr. Nous avons des médecins pour ça aussi, bien sûr. Faire attention, bien sûr, à sa santé, ne pas en rajouter. Mais nous avons à consentir à notre situation de créature. Et c'est ce qu'on oublie souvent. Surtout aujourd'hui, on va nous croire l'homme augmenté, n'aura plus besoin, n'aura plus aucun problème de santé, comme si on pouvait vivre éternellement. Voilà. Nous avons à consentir à cela. Et le malheur vient. Mais lorsqu'il vient, justement, ne pas chercher à trouver une cause, mais savoir une fois qu'il est présent, qu'est-ce que l'on fait? C'est ça. Comment on se retrousse les manches? Et c'est là que je passe au mal, le mal qui lui vient de l'homme, hein, parce que l'homme est capable de rajouter du mal au malheur. Et c'est souvent le cas, et très souvent. Parce qu'il oublie sa condition de créature, il va rajouter du mal au malheur, et en tout premier lieu en cherchant une cause. Mais il est capable d'en rajouter en permanence. Une fois que l'événement est arrivé, qu'est-ce que l'on fait? On ne va pas revenir sur l'histoire et se fâcher les uns les autres. Non. Le coup est fait, comme dirait ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, on se retrousse les manches. Et l'homme, on rajoute trop souvent du mal au malheur. Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça aussi qu'on peut analyser aussi ce qui se passe dans l'Église aussi. Alors le malheur n'existait peut-être pas, mais on voit bien comment des scandales aussi viennent rajouter du mal au malheur ou à une situation de faiblesse dans notre Église. Et c'est là aussi où il nous faut réagir, ne pas être comme paralysé. Et se rappeler donc que nous faisons partie d'une Église. Et j'aimerais, pour aborder d'ailleurs c'est ce qu'on entend, rappeler cette parole d'un auteur qu'on lit peut-être moins, qui s'appelle Georges Bernanos, qui a écrit en 1934 un livre, le journal d'un curé de campagne, et il fait dire à ce curé cette parole surprenante. Alors ça peut être vous surprendre. Une paroisse, c'est sale forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Attendez le grand jour du jugement. Vous verrez ce que les anges auront à retirer des plus saints monastères. Par pelleté, quel vidange! Alors, mon petit, ça prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. Un peuple de chrétiens, n'est pas un peuple de saintes nitouches. L'Église a les nerfs solides, le péché ne lui fait pas peur, au contraire. Elle le regarde en face, tranquillement, et même à l'exemple de notre Seigneur, elle le prend à son compte, elle l'assume. On a peut-être oublié cela. L'Église n'est pas plus pure ou parfaite que d'autres. Voilà. Il y a en elle aussi des forces qui ne vont pas l'aider à se sanctifier. Mais on peut dire, comme nous dit donc Bernanos, à travers le curé d'Ambricourt, qu'elle, on va dire, cela ne doit pas la traumatiser, parce qu'elle a la science du pardon, et elle a la science aussi de la repentance et de la conversion. Elle sait se convertir. Donc quand on entend tout ce qui est dit aussi, et qui vient parfois surajouter finalement à notre malheur ou à notre état de fragilité actuel, essayons de discerner les faits d'un côté, dont certains sont avérés, mais n'ayons pas peur de les regarder en face aussi, et de faire le ménage comme une solide ménagère. Voilà. Nous n'avons pas peur. Et discernons aussi la manière dont les faits sont traités. Et là, on peut dire que parfois, il y a quand même une surabondance, en quelque sorte. Entre autres, quand on dénonce vivement l'amalgame dans certains côtés, là, on pourrait aussi le faire pour l'Église, mais bon, ça, on l'oublie, c'est surprenant. Ouais. Qu'on dénonce de la même façon l'amalgame pour tous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut distinguer les faits et le traitement des faits. Et parfois, ce traitement est un petit peu dur. Là, on en rajoute, en quelque sorte. Donc, comment on n'hésite pas. Donc, quand, à propos du mal, l'homme est capable donc de rajouter du mal au malheur, on voit bien que Jésus ne cherche pas, et pour le moins pas du tout, à donner une cause au malheur, à l'épreuve que vivent les hommes, mais il cherche simplement à le relever, à éviter que l'homme ne rajoute du mal au malheur. Et c'est là que se situe souvent notre péché. Bien loin d'essayer d'arranger les choses, nous nous tournons vers nous-mêmes en quelque sorte et nous rajoutons du mal au malheur, nous amplifions le malheur ou la situation existante. Et l'art du chrétien, c'est justement de se relever et de relever les autres, d'affermir la foi des autres. C'est ça, et c'est là. Donc en discernant, en ne tombant pas dans la sidération qui nous paralyse. C'est là que c'est important. Donc le mal, éviter de rajouter du mal au malheur. Et je viens bien sûr au malin. Le malin toujours à l'œuvre. Nous croyons, nous ne croyons pas au diable, nous ne croyons qu'en Dieu, mais nous n'oublions pas la présence du diable, et le curé d'Ambricourt non plus ne l'oublie pas. Disait bien Bernanos, il ne l'oublie pas. Et c'est là sans doute qu'il y a une tentation pour nous qui se pointe, et en ce carême tout particulièrement, quand nous écoutons tout ce que nous entendons sur l'Église. Une tentation qui est insidieuse et qui reprend finalement, souvenez-vous, le texte du premier dimanche de carême. Avec cette conjonction, quand Jésus a été tenté par trois fois, cette conjonction « si ». « Si tu es le Fils de Dieu ». Si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que tu es vraiment celui qui pourra sauver le monde? Est-ce que tu crois vraiment? Regarde-les tous, là, ils vont te trahir. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux faire ceci? Que tu es le Fils de Dieu? On voit bien comment ceci insinue vraiment un doute dans l'esprit. Et c'est la tentation. Parce que ceci, on l'entend aussi. Est-ce que vous croyez encore en Dieu après tout ce que l'Église a fait? Est-ce que vous voulez encore faire partie de l'Église? Est-ce que vous voulez... Voilà, on entend ceci. Et c'est une tentation. Et la tentation, bien sûr, c'est la tentation suprême de l'apostasie. Faire le choix de Satan contre Dieu. Le choix du monde contre Dieu. C'est la tentation suprême. Et elle est très profonde. Car si vous écoutez bien tout ce qu'insinue, finalement, cette campagne aussi médiatique, derrière cela, ça va très loin, puisque si on regarde bien, c'est l'acte de foi lui-même qui est suspect. L'acte de foi lui-même serait source de perversité en quelque sorte. Enlevons tous les croyants et la paix sera sur terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
jusqu'à preuve du contraire, Hitler et Staline n'étaient pas des croyants. Et pourtant, voilà. Donc, on voit bien comment l'acte de foi lui-même du croyant est source de violence, source de perversité. On peut aller jusque-là. Tu crois encore en l'Église, après tout, ou en Dieu, après tout ça? Et se rappeler cette chose, cet élément essentiel. Sur quoi est fondée ma foi? Elle est fondée sur ma relation au Christ. Et c'est à partir de cette relation au Christ que je vais regarder l'Église, que je vais regarder ce qui se passe dans l'Église et que je vais faire le ménage. C'est à cause du Christ que je vais faire ça. Je ne vais pas laisser finalement... Bien sûr que ça va m'influencer, mais je ne vais pas laisser des éléments extérieurs m'empêcher de croire en Christ. Et c'est là qu'on le retrouve, l'image du figuier. L'Église peut ressembler à ce figuier, comme notre vie d'ailleurs, à ce figuier. Ne pas porter de fruits ou de beaux fruits. Alors, ayons ce regard même du vigneron qui est le Christ. Ce regard même du vigneron qui dit « Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. » Et soyons et choisissons de faire donner du fruit à cette Église. Peut-être donnera-t-elle du fruit à l'avenir, autant pour l'Église que pour nous. Que l'Esprit-Saint nous éclaire, que l'Esprit-Saint nous soutienne dans ce carême où la tentation est à l'œuvre.